se succèdent dans la chapelle sans discontinuer. Et Bach, en observant son ami ému aux larmes, pense à la paix. Des années qu'une partie du continent se déchire et meurt dans le fracas des armes de deux immenses puissances. La Suède et la Russie, depuis trop longtemps, se toisaient du regard. Cela ne pouvait que mal finir, tant les intérêts des puissants ici et là appelaient à une confrontation, tôt ou tard. Mais plus que quiconque, un homme est le grand vainqueur de toute cette affaire. Pierre Ier, le souverain russe, est en train, année après année, de transformer un pays composé de paysans sans cohésion en véritable empire. Bientôt, l'ombre des tsars va planer au-dessus du monde entier. Bach n'en a aucun doute. Mais la guerre n'a pas eu que des mauvais côtés, du moins de son point de vue. En fuyant la Pologne assiégée, Thälmann est entré au service du duc Johann Wilhelm de Saxe-Eisenach, permettant le développement d'une amitié extraordinaire. Karl Philipp Emanuel Bach, l'un des fils du compositeur, est même devenu le filleul de Thälmann. Un acte de respect mutuel et d'affection non fin. Bach, les yeux rivés vers le couple, n'en est pas moins emporté par le contexte de cette époque troublée. Soro et toute la région portent encore les stigmates d'un conflit qui a fini d'emporter les certitudes les plus établies. Partout, on murmure le nom de ce tsar dont le charme et la soif de pouvoir intriguent. Qui est ce Pierre Ier, l'homme qui fut capable de terrasser la grande puissance suédoise? D'aucuns, au cœur des terres russes, pensent qu'il est un descendant direct de Dieu. Et si c'était le cas, la démonstration de sa puissance appelle à toutes les formes de prudence. Non, les principautés et royaumes allemands ne sont pas à l'abri face à l'appétit grandissant de cet homme unique. Son potentiel de grandeur semble infini. La croissance russe, elle, s'annonce exponentielle. Les plaines ukrainiennes qui brûlent encore peuvent en témoigner. La Russie s'est éveillée. Jean-Sébastien Bach, les mains jointes dans le dos, ne parvient pas à profiter de ce moment extraordinaire qui se déploie sous ses yeux. La chapelle joyeuse n'est qu'un refuge enchanté et fugace. Dehors, c'est l'inquiétude qui règne. Les mauvais jours arrivent, et les corps pourrissants des armées qui viennent de connaître les chocs de la Grande Guerre du Nord sont encore là, figés pour toujours. Thälmann, lui, se détache de la sinistrose. Amalie, il l'attend depuis des années. Et voilà que la jeune femme, dame de compagnie de la comtesse de Promnitz, est devant lui. 100 fois, ces dernières années, rongé par la douleur, il s'est imaginé cette scène, 100 fois dans son esprit. Elle était moins belle que la réalité de ce matin d'automne. Au dehors, les feuilles se détachent des arbres anciens sous l'effet du froid naissant. Mais dans la chapelle du château de Soro, rien ne paraît. En cet instant, impossible. Dans les chœurs résonne l'ouverture en si mineur de Thälmann. Au même moment, à Saint-Pétersbourg, Pierre Ier, au cœur du chantier énorme de la forteresse Pierre et Paul, est inquiet. Le nouvel homme fort du continent européen n'a pas profité longtemps de sa victoire décisive, obtenue quelques mois plus tôt dans les champs ukrainiens. Et pour cause. Son rival, Charles XII de Suède, a réussi à s'échapper. Oh, c'est pas une bonne nouvelle. Malin comme un lynx, son ennemi s'est tourné vers un royaume resté neutre jusqu'alors, mais tapis dans l'ombre. L'Empire ottoman. Le sultan Ahmed III est un homme malin. Resté neutre malgré ses accointances avec l'ennemi des Russes, il a préféré attendre avant d'agir. En décidant d'accueillir le souverain défait lors de la bataille de Poltava, son message envers la Russie est très clair. Il prépare la guerre, déjà. Le regard perdu dans la Neva, le souverain supervise les opérations d'édification de sa ville. Fondée sur un territoire longtemps disputé aux Suédois, Saint-Pétersbourg est la nouvelle capitale du régime du tsar. La forteresse Pierre et Paul, elle, est son principal symbole. L'immense structure connaît une mue incessante depuis 1703 et ses premières bâtisses, faites de pierre et de bois. Rome ne s'est pas faite en un jour, l'adage est connu. Incontestablement, Saint-Pétersbourg non plus. Des années que le souverain, rongé par la guerre totale qui s'achève, doit mener de front la reconstruction et la modernisation d'un empire immense au cœur duquel tout reste à faire. Mais la destinée va-t-elle permettre au tsar d'atteindre tous ses objectifs, de surfer sur cette victoire décisive attendue depuis si longtemps? Rien ne permet de l'affirmer. Et alors qu'en Pologne, la fête bat son plein, le spectre de la guerre refait son apparition de manière inattendue. L'Europe, elle, retient son souffle. La Grande Guerre du Nord n'aurait-elle pu être qu'un funeste prélude? Retour le 30 novembre 1700. Nous sommes à Narva, dans le nord-est de l'Estonie. Charles XII de Suède, droit comme un i sur une immense monture de robe baie, attend. Le jeune homme de 18 ans semble minuscule dans un uniforme bardé de décorations. Mais cela n'est qu'une impression. Aujourd'hui, il est là pour marquer un grand coup. Pierre Ier de Russie cherche depuis quelque temps à laver ce qu'il considère être un affront. Il y a un demi-siècle, la Suède a profité de la faiblesse russe pour s'emparer de vastes territoires le long de la mer Baltique. Une situation que le nouveau maître à bord n'accepte pas. Alors Pierre a noué des alliances. Il a sorti son pays de la léthargie diplomatique dans laquelle il était plongé depuis trop longtemps. Avec la Pologne et le Danemark, il a signé un traité d'alliance solide. D'autres, face à la menace suédoise, ne vont pas tarder à le rejoindre. L'un des symboles de cette politique de reconquête est la ville de Narva. Bastion fortifié sur la Baltique, la reprendre serait le moyen pour Pierre Ier de se doter d'une flotte navale, ce qui lui manque cruellement. Oui, mais voilà. La Suède et son jeune roi ne comptent pas se laisser faire. Charles XII est encore un gosse, mais il s'avance en brillant stratège. Son pays est le plus puissant d'Europe du Nord. Aucun autre ne lui arrive à la cheville. Alors, il a attendu pour agir. Les Russes sont près de 40 000 à se jeter contre les murs de Narva. Ce qu'ils n'ont pas anticipé, ce sont les conditions météorologiques. Les armées de Pierre Ier sont encore trop tendres et le nombre ne fait pas tout. Au petit matin de ce 30 novembre, une tempête de neige s'est levée. Les assiégeants se retrouvent aveuglés. Pire, un vent contraire les empêche d'entendre l'armée de Charles qui, tapis dans le chaos, avance. Lorsque les Suédois se jettent sur eux, il est trop tard. Les lignes russes sont brisées. La panique s'installe. Les 40 000 hommes se transforment en fuyards. Ils tentent par tous les moyens de s'échapper, y compris en empruntant le pont principal, une de leurs uniques portes de sortie. Et bientôt, l'édifice brinque-ballant s'effondre dans un fracas terrible. L'armée de Pierre doit capituler. Avec moins de 10 000 hommes, le jeune Charles XII vient de réussir un tour de force énorme, celui d'humilier une fois encore les forces russes. Mais cela va-t-il vraiment durer ? Pierre Ier, immédiatement après la déroute à laquelle il n'assiste pas, se lance dans une grande réorganisation de son armée. Lui, qui croyait s'engager dans une guerre courte, se met le doigt dans l'œil. Le voilà embarqué pour des années de conflits sanglants et pluriels. Alors qu'une tempête de neige a raison des espoirs du tsar, Thälmann est un jeune homme de 19 ans plein de vie. Le virtuose a composé son premier opéra à l'âge de 12 ans. Sigismundus lui a permis d'obtenir une notoriété précoce. Sa mère, qui refusait de le voir devenir musicien ou compositeur, l'a alors envoyé faire des études loin de chez eux, en confisquant les instruments de son fils. Mal lui en a pris. En cachette, le jeune homme a continué de composer. Voilà d'ailleurs qu'il prend le chemin de Leipzig, avec l'objectif officiel de faire des études de droit. Mais Thälmann sait exactement où il va. En chemin, il s'arrête pour rencontrer un autre jeune de sa trempe, Georg Friedrich Händel, 16 ans. Ils resteront amis pour toujours. Thälmann entre à l'université et a déjà composé ses sonates pour flûte, de violon et basse continue. La guerre, elle, se poursuit. Il ne va pas falloir longtemps avant que Pierre Ier se fasse un nom qui résonnera sur le continent tout entier. Alors, qui éclate au tout début du XVIIIe siècle, est le fruit d'un contexte on ne peut plus particulier et explosif. Lorsque le futur Pierre Ier voit le jour en 1672, la Russie est très loin d'être la nation puissante qu'elle va devenir sous son règne. La Moscovie, c'est le nom officiel à l'époque, est un territoire immense par la taille, mais tout petit par la puissance. Alors qu'en Europe de l'Ouest, Louis XIV règne depuis longtemps sur une France capable de bâtir le château de Versailles, que le Saint-Empire se déploie à Vienne et à Madrid, les tsars sont loin d'être considérés et craints. De Kiev, au bout de la Sibérie, leur autorité est relative. Il faut dire qu'avec une étendue pareille, comment un souverain, avec les armes et les moyens de transport de l'époque, pouvait-il faire valoir son pouvoir ? Ainsi, les monarques russes ne sont que des ombres qui se succèdent et dont on parle dans les campagnes avec une distance bien compréhensible. Pourtant, leur titre résume à lui seul un véritable sentiment de puissance. Tsar, dérivé du mot César, est emprunté évidemment à la fonction antique et au personnage éponyme. Le lieu du pouvoir, Moscou et le palais du Kremlin. C'est là que naît Pierre, fils du tsar Alexis Ier, souverain très religieux. Cette religiosité est une constante dans un pays aussi gouverné par le pouvoir puissant de l'Église orthodoxe et de ses prêtres. L'orthodoxie n'existe alors qu'en Moscovie, où elle est considérée comme sacrée, alors que partout ailleurs, catholicisme et protestantisme sont les religions qui comptent. Cette différence sociétale n'est pas anodine. Pour les grands esprits de l'Église orthodoxe, les étrangers sont des sources de grande méfiance. Se confronter aux autres religions monothéistes, même s'il s'agit de croyances chrétiennes, c'est risquer un péché mortel qui conduirait aux portes de l'enfer. Le mieux alors est de ne pas voyager. Cette situation, qui peut nous paraître ubuesque, est une des raisons qui explique le repli sur soi d'un régime très en retard, presque arriéré, pourrait-on dire, vis-à-vis de ses voisins européens. D'ailleurs, ses contacts limités avec le monde extérieur sont également visibles d'un point de vue diplomatique. Alors que non loin de ses frontières, le Saint-Empire se meut dans tous les sens, la Moscovie reste éloignée des préoccupations guerrières et territoriales. Le pays vit encore dans les souvenirs et les héritages d'un empire romain d'Orient décapité après la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. C'est ainsi qu'à la manière d'un Justinien en son temps, les tsars sont des autocrates dont le pouvoir ne peut pas être remis en question et qui peuvent se permettre de régner sans partage, ni présence de ministres ou d'assemblées pouvant les encadrer. Ils sont les descendants de Dieu sur terre et à ce titre, développent au fil des siècles une sorte d'absolutisme. Seule l'Église orthodoxe, omnipotente, jusque dans les régions les plus reculées du pays, dispose d'une influence considérable sur les souverains. En dessous des monarques, une noblesse existe et agrège à elle tous les privilèges et les postes qui comptent. Ce sont les boyards, ces quelques familles riches et propriétaires des immenses terres de la Moscovie forment le terreau d'une société on ne peut plus inégalitaire, où les compétences ne sont pas mises au service du progrès. Cela s'exprime particulièrement sur le plan militaire, où l'armée du tsar, s'il est importante en nombre, est loin d'atteindre les standards des autres souverains d'Europe. Sa cavalerie ne connaît pas les dernières tactiques en vigueur, et son infanterie est mal équipée. Que dire de sa marine, totalement inexistante ? Lorsqu'il accède au pouvoir, Pierre Ier n'a pas un seul bateau de guerre à sa disposition. La raison est un peu plus simple. Le pays ne peut compter sur aucun accès à une mer chaude, condition indispensable au mouillage des navires. Une situation loin d'être idéale. Le nouveau tsar prend les commandes en 1682. Il n'a que 10 ans et dès le départ, il se retrouve avec une véritable poudrière sous les pieds. Sa mère et sa demi-sœur se disputent la régence et cette dernière ne va pas hésiter à échafauder une révolte via certains régiments d'élite de l'armée qui stationnent au Kremlin en 1682. La violence est inouïe. Elle marque le garçonnet au fer rouge. Dans sa propre chambre, certains de ses plus proches, son oncle et sa tante, se font massacrer sans ménagement. Écartée de la régence, sa mère est supplantée par sa demi-sœur Sophia, qui avait préparé son plan depuis longtemps. Pour la toute première fois de l'histoire de la Moscovie, deux souverains vont se partager le trône. Ivan V, demi-frère plus âgé de Pierre, est même déclaré premier tsar. Isolé, Pierre Ier retire de cette expérience traumatisante de profondes séquelles psychologiques. Elle s'exprime par des crises dont on ignore la cause et qui entraînent tremblements et hurlements. Plus encore, relégué dans l'ombre, Pierre Ier, un peu à l'image de Louis XIV avec la Fronde, développe une haine viscérale de cette noblesse qui l'entoure et de la capitale, Moscou. La ville peut devenir une arme contre le tsar et le pouvoir. Dès lors, germe dans son esprit une idée folle, celle de créer une nouvelle capitale au régime. On en est loin. Pour l'heure, Pierre est supplanté par son demi-frère et la régente, qui ne le considère pas le moins du monde. D'ailleurs, il est envoyé avec sa mère en exil, à l'extérieur de Moscou. Loin du trône pour ne pas peser dessus, mais assez près pour être surveillé. Dans ce qu'on appelle le faubourg des étrangers, le prince est pour la première fois confronté à des Européens résidant en Moscovie et eux aussi mis à l'écart. Ces Allemands et ces Suisses notamment lui permettent de développer une véritable culture de réforme. Le ressentiment de Pierre envers ce qu'il qualifie de vieille Russie percute les récits de ces étrangers qui lui parlent du roi Soleil ou de la ville de Vienne. Le jeune homme se décide très vite. Il va reprendre le pouvoir et mener une politique de réforme que le pays n'a encore jamais connue. Plus encore, il développe au contact des jeunes de son lieu d'exil un véritable esprit de leader qui s'exprime dans des jeux guerriers qui lui donnent des bases dont il n'hésitera pas à se servir plus tard. Pierre grandit, devient un géant de 2 mètres et s'impose aussi bien par la taille que par la prestance. En 1689, il sort de l'ombre. La régente tente de le faire assassiner dans un nouveau coup d'État. Mais son plan échoue et elle doit se retirer dans un couvent. Pierre Ier partage donc la couronne avec son demi-frère Ivan V. La cohabitation se passe sans le moindre problème, tout simplement, parce que l'aîné ne dispose d'aucune capacité de gestion. Et plus encore, ils sont nombreux à le considérer comme un déficient mental. Quoi qu'il en soit, Ivan meurt prématurément en 1696, après 13 ans de règne partagé. Voilà le jeune Pierre Ier, libéré des chaînes qui pouvaient autrefois l'entraver. Les mains libres, le géant ne va pas hésiter à mener à bien les politiques de réforme qu'il imagine depuis de nombreuses années, et plus encore, à se venger. La vieille Russie et ceux qui l'incarnent peuvent se mettre à trembler. Aujourd'hui, dans les notes de l'histoire, histoire et musique entrent en résonance. Pierre Ier de Russie est un tsar au début de vie particulier. Né dans une Russie arriérée et en retard technologiquement, il doit faire face à une régence imposée et à un exil qui lui permet de se former et de développer une haine féroce contre celles et ceux qui ont voulu lui nuire. En 1696, alors qu'il peut enfin prendre en main la destinée de son royaume, le jeune homme ne va pas se faire prier pour s'affirmer. L'Europe, médusée, va bientôt assister à l'éveil russe. Il s'annonce tonitruant. Hiver 1706, Pierre... Dans les rênes, alors qu'il n'a pas encore 18 ans, tout est à faire pour Pierre Ier. Dans sa politique d'expansion, notamment maritime, il fait face à de nombreux écueils. D'un côté, pas d'accès maritime. De l'autre, pas de spécialistes pour construire ces navires indispensables à l'expansion de son pays. De ce fait, Pierre décide une chose inédite. Il va partir visiter l'Europe, accompagné d'une centaine de personnes. Le but ? se lier à d'autres pays diplomatiquement et débaucher des scientifiques et des spécialistes de renom qui viendraient travailler à son service. Ce qu'on appelle la Grande Ambassade traverse toute l'Europe pendant près de 18 mois. Londres, Amsterdam, Berlin, Vienne. Les cours d'ailleurs apprennent à découvrir ces Russes qui ont toute l'attraction. Pierre Ier fait le choix de ne pas aller à Paris. En effet, Louis XIV, dans sa politique de rapprochement avec les Ottomans, s'est mis à dos les Russes, ennemis mortels des Turcs depuis bien longtemps. D'autres estiment que c'est le roi Soleil qui refuse de recevoir Pierre Ier et sa délégation, jugés comme des barbares. Enfin, quoi qu'il en soit, ils ne se rencontrent pas. Ses visites lui permettent effectivement de débaucher les spécialistes qu'il est venu chercher. Cette période lui permet d'affiner le cercle de ses proches. Dans sa logique de rejeter les nobles en place depuis longtemps, il fait preuve d'une étonnante méritocratie. C'est notamment le cas avec son favori, Menchikov, né de basse extraction. À la toute fin du XVIIe siècle, le souverain ramène pas moins de 800 spécialistes dans ses bagages et fonde des écoles permettant aux Russes compétents de se former à différentes techniques. Ces réformes s'accompagnent de bien d'autres, notamment l'obligation de se couper la barbe, ce qui provoque un tollé monumental. Cela n'a qu'un seul but, faire passer la Russie dans une autre dimension en décapitant les symboles de l'ancien temps. Pierre Ier